Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve après cette émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Ophélie Mas, présidente et fondatrice de l'association À bout mais debout et Madeleine Pacheco, c'est ça, secrétaire. Bonjour toutes les deux, vous êtes venues nous présenter votre association, votre combat de tous les jours.
C'est ça.
Tout à fait.
Très bien, alors on va passer une petite heure ensemble, mais on va découvrir nos invités et puis leur association, leur action. Et puis voilà, certains d'entre vous vont se reconnaître. Ou pas, mais il y en a qui vont dire « Ah tiens, ça va peut-être allumer une petite étincelle dans leur tête qui va dire « Ah tiens, ça me rappelle quelque chose ». Puis c'est le but après tout. Hein. On va d'abord écouter le Flash Info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et c'est parti, donc nous sommes avec Ophélie et Madeleine de À bout mais debout. Alors la tradition ici, mesdames, on demande toujours une petite bio personnelle aux gens pour avoir une petite idée de la trajectoire de vie qu'ils ont parcourue pour qui les a menés ce jour à ce micro. Si vous voulez bien vous prêter à cet exercice, qui est-ce qui se lance en premier?
Allez, j'y vais. Donc je m'appelle Ophélie, j'ai 33 ans, je suis maman de 4 enfants ayant des troubles neuroatypiques. Donc moi je viens pas du tout d'ici parce que je suis fille de militaire, donc j'ai vécu en Bretagne, en Afrique, et donc j'étais sur la Côte d'Azur avant d'arriver ici, puisque j'avais rencontré le père de mes deux premiers au Feria de Dax, en vacances.
Ah ben voilà, tiens.
du coup voilà comment je suis arrivée ici. Et puis j'ai toujours été passionnée de psychologie, j'ai fait 2 ans de licence de psychologie, je suis aussi hypnothérapeute. Et en fait, quand on a vu donc le diagnostic de mes enfants, ça a été très compliqué. On a mis 7 ans à diagnostiquer l'autisme de ma fille, mes 2 derniers ont des troubles assez forts. Et en fait, je me suis dit, on est vachement seul. Avec nos enfants, avec les dictats de on sait pas les élever, ou on fait toujours quelque chose de mal pour que nos enfants soient comme ça. Et je me suis dit, plutôt qu'on soit tout seul avec nos souffrances, nos difficultés, dans les dossiers MDPH, dans tout ça, j'ai voulu créer cette association aussi pour parler des bons professionnels, parce qu'une bonne prise en charge, ça change notre vie, je peux le dire, je l'ai vécu. Donc voilà, c'était aussi pouvoir nous retrouver, déculpabiliser, rire ensemble et vraiment apprécier d'être maman, parce que nos enfants sont tout autant géniaux que les autres. Et c'est juste plus d'organisation au quotidien. Quoi.
C'est ça. Très bien, merci beaucoup. On va passer à Madeleine.
Donc je m'appelle Madeleine, j'ai 42 ans, je suis lyonnaise de base et ça fait 15 ans que je suis dans les Landes maintenant. Je suis belle-maman de 2 grands-enfants et maman d'un petit garçon qui va avoir 9 ans et qui, effectivement, est porteur d'un trouble neuroatypique. Donc nos enfants, nos 2 garçons sont étaient dans la même classe de base. Il s'avère que suite à une notification de la MDPH, mon fils devait avoir une AESH. Donc il a eu cet AESH dès le départ cette année, et puis on s'est rendu compte que certains enfants n'avaient pas ces AESH, et on s'est surtout rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'AESH dans l'école. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter avec Ophélie. Je savais qu'elle avait monté l'association, et on s'est dit, si on veut faire bouger les choses concernant ce sujet-là, on va passer par l'association. Donc l'association, c'est un collectif de parents pour se décharger, etc. L'idée m'a plu tout de suite. Et en plus, on essaye de se rassembler justement et de faire des collectifs de parents pour mener certaines actions. Voilà.
D'accord.
On en discutera après, mais effectivement, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'association pour donner un petit coup de main à Ophélie.
Très bien, l'union fait la force.
Exactement.
Mais oui. Alors, Ophélie, donc ça a été créé quand, cette association?
Alors, je l'ai montée en septembre 2025.
Ouais, donc c'est récent. Hein,
voilà, tout c'est ça. On a fait, je crois, 5 groupes de parole. Mais suite à des problèmes personnels, j'ai pas non plus pu en faire plus. Et donc, j'ai eu de la chance que Madeleine puisse m'aider à relancer l'association. Et la mairie de Metz nous aide aussi beaucoup pour qu'on puisse...
Vous êtes sur Metz
tous... Exactement.
D'accord. Alors, et combien de personnes d'adhérents à votre association?
Eh bien, pour l'instant, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas simplement parce qu'effectivement, elle était très endormie, l'association. Ouais, donc, ouais. On a mis des choses en place là, toutes les deux, durant ce premier semestre. Mmh. Et justement, on sera au Forum des associations de Metz le 29 août, ouais, de 9h à midi. Et on espère avoir du monde pour justement faire adhérer les parents et mettre la machine en route pour pouvoir lancer le premier vrai café de parents le 4 septembre.
D'accord. Bah, de toute façon, cette émission est là pour ça aussi.
Tout à fait. Hein,
pour que vous fassiez découvrir et entendre par les auditeurs et que il y a des gens qui se tournent vers vous parce que forcément, il y a des gens qui vont se tourner vers vous. Alors, un espace d'écoute et de soutien et d'entraide aux parents. Alors parce que c'est comme à chaque fois qu'on reçoit une association avec un thème, avec un trouble, que ce soit une maladie ou un handicap, etc. On parle bien sûr du trouble en question, mais aussi des aidants, c'est-à-dire, alors les parents déjà, de base, hein, c'est toujours des aidants quelque part, c'est toujours difficile, c'est
une charge mentale. On n'est pas considéré comme aidant, on est des parents.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis alors, comme vous disiez aussi, en tant que parent, alors surtout les mamans, je crois qu'on est tout le temps dans la culpabilité. Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je fais ce qu'il fait? Est-ce que c'est ma faute? Etc. Ça, je crois que...
c'est une charge mentale en plus de la charge mentale que toutes les mamans peuvent avoir au quotidien. Enfin, chaque parent, parce qu'il y a aussi des papas qui ont... une bonne charge mentale, hein. On va pas les exclure non plus.
Merci.
Avec plaisir. Mais effectivement, c'est une organisation, comme disait Ophélie, et c'est une charge mentale de plus pour que tout se passe bien pour tout le monde et que le quotidien soit un peu plus agréable.
Bien sûr. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez décrire une journée typique que vous connaissez justement par rapport à la gestion de vos enfants? Un petit exemple, tiens, morning routine, je me lève à telle heure, je me maquille et après, voilà.
Alors là, je me suis maquillée que parce que je venais ici. Hein. Oui, parce que j'ai plus le temps de me maquiller.
Non, mais à la radio, c'est important. Hein. Moi-même, je suis très beau. Voilà.
J'ai très peu de temps pour me maquiller. C'est devenu des occasions rares. Mmh. Mais en général, je vais me lever à 8 heures. Mmh. Et en fait, tout dépend les prises en charge du jour. Puisque moi, avec mes 4 enfants, j'ai en moyenne 14 rendez-vous par semaine. Entre les
Non mais je pense que ça pose le.
Mais déjà là, ça calme. Hein, déjà.
Ah, oui, tout à fait. C'est pour ça que je vais la laisser parler.
Ça calme.
On n'a pas la même organisation.
Là, par exemple, demain à 9h, je dois être à Biodos, à l'orthophoniste pour mon fils de 3 ans qui est non-verbal pour le moment. Mm-hmm. Ensuite, je dois emmener mon fils au psychomotricien qui est à Saint-Lon-les-Mines. Heureusement, il a accepté de me prendre mon autre enfant aussi pour m'éviter un... Et oui, parce que il y a de ça aussi qu'on ne parle pas, c'est il faut trouver les professionnels, mais ils ne prennent pas les fratries. Oui. En sachant qu'il faut savoir qu'un enfant qui a des troubles autistiques, ses frères et sœurs ont 8 à 10 fois plus de chances d'avoir des troubles, donc c'est une famille complète, et donc ils ne prennent pas les fratries.
Alors pour une raison technique, déontologique, pour quelle raison en fait
Parce que, par exemple, moi, ça m'est arrivé de faire le bilan à deux de mes enfants, et elle l'appelait par le mauvais prénom, par exemple.
Ah oui.
Parce qu'elle est habituée à l'un des enfants. Enfin, et puis, je pense qu'il y a une question de déontologie aussi, parce que là, moi, je sais qu'il a... Il a voulu parce que c'était sur un court temps, il a accepté et qu'ils ont beaucoup de différences d'âge, mais sinon, ils n'acceptent pas. Donc, voilà, c'est... Moi, par exemple, ma fille... Elle a été diagnostiquée autiste, donc comme c'était de l'autisme féminin, on m'a très vite donné une liste de professionnels réellement spécialisés dans l'autisme féminin, mais c'est tout vers Osgore, Cap-Breton, en moyenne, je fais 300 km quand j'ai de la chance par jour.
C'est des grands écarts. Il faut trouver les professionnels, les bons professionnels, puisque malheureusement, il y en a qui... en profite aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'on a monté l'association, pour se donner des tips et des bonnes adresses. Mais c'est surtout que, elle en a 4, donc le grand écart des kilomètres, et puis c'est des dépenses personnelles. Alors il y a certaines aides, mais forcément, ça couvre pas toujours le nombre de kilomètres.
Oui, et puis il y a la voiture, il y a tout. Alors, Non, mais c'est vrai que moi je suis un peu voilà, ça me semble tellement énorme.
On se rend pas compte.
Moi, je vous admire, hein, franchement. Vous avez des biceps dans la tête que je suis pas sûr d'avoir. Hein.
Bah, c'est qu'à un moment donné, malheureusement, Ophélie doit arrêter de travailler.
Bah, on est tous humains, oui. Voilà, c'est ça.
Puis
ouais.
elle, niveau organisation, elle peut plus travailler. Donc, elle a, certes, elle a réussi à avoir des AJPP, des choses comme ça. Moi, je travaille à côté. Alors, j'en ai qu'un avec le trouble. Puis les deux grands sont grands, donc voilà. Mais effectivement, c'est aussi une organisation, puisque moi je travaille en 39 heures et je suis aussi indépendante à côté. Donc forcément, on essaie de trouver des rendez-vous en dehors de nos horaires de travail.
Ben oui, évidemment.
C'est pas toujours facile. Heureusement, je suis tombée jusqu'à aujourd'hui sur des professionnels qui sont juste topissimes et qui comprennent et qui nous trouvent des solutions. Mais sans ça, c'est vrai que ça serait compliqué, quoi.
Oui, bon, alors on va faire une première pause et on va retrouver nos Wonder Woman juste après, à tout de suite. Une voix de retour avec Ophélie et Madeline. Oui, donc il y a pas mal de choses sur lesquelles moi je m'interroge. Bon, on a parlé de la logistique, là, ça semble quasiment insurmontable. Donc, comme on disait hors antenne, fatalement, avec quatre enfants, vous ne pouvez pas avoir une vie professionnelle normale. C'est pas possible. Enfin, je ne vois pas comment vous pourriez faire. Donc, vous avez quand même la capacité de continuer à faire ça, malgré cette charge qui représente plus qu'un temps plein, quand même, je crois.
Oui, c'est ça. Ben, j'ai travaillé jusqu'à décembre. J'ai arrêté de travailler en décembre, fin 2025, du coup. Je travaillais jusqu'à maintenant et c'est vrai qu'au diagnostic de mes deux derniers, effectivement, c'était plus possible pour aménager les horaires et tout ça. C'était vraiment plus possible. Et c'est aussi une partie... l'association me fait aussi du bien à moi parce que, honnêtement, si on m'avait dit que je serais maman au foyer à m'occuper d'enfants handicapés, j'aurais dit absolument pas.
Ben, oui.
Donc, ça me permet aussi du lien social.
Oui, c'est ça, Oui, c'est ça, Cassière. Les associations, elles ont ce rôle aussi souvent, c'est de créer du lien et puis de ne pas être tout seul, de pouvoir discuter, dire ah oui, toi aussi, s'entraider. Voilà, c'est quand même c'est vital dans la vie, je crois que.
Ah oui, mais de toute façon, les associations de proches aidants le disent, le proche aidant perd en sociabilité et au fur et à mesure, en plus avec les enfants, on va pas au resto parce qu'on a peur qu'ils fassent une crise. On n'est plus, les enfants au fur et à mesure sont de moins en moins invités chez les copains parce que on peut pas les laisser non plus comme ça et que ils mettent le bazar très très vite Enfin voilà, ils ont des copains, certes, mais on invite de moins en moins les parents. Enfin, c'est compliqué.
En général, ils se reconnaissent entre eux.
Oui,
quand même.
Bien sûr. Mais c'est vrai que
non, mais c'est vrai. Hein.
L'anniversaire qui est fêté avec 4 ou 5 enfants de TDAH.
Là, c'est un scénario de film américain.
La maman qui organise ça, elle a le cœur accroché quand même.
Je vois très bien la scène, oui. Voilà. Effectivement, déjà des enfants habituels. Bon, voilà, ça peut être rock'n'roll des fois.
Ah, bien sûr, c'est un anniversaire, donc c'est très festif. Donc voilà, c'est petit à petit le lien social, malheureusement, c'est même pas les autres qui nous mettent de côté. C'est nous. Oui. Et à un moment donné, on n'ose plus aller au restaurant parce qu'on n'a pas envie qu'ils nous fassent une crise, serait-ce que dans une salle d'attente.
Ah oui.
Enfin, ça peut être des situations très compliquées pour nous.
Alors, je vais demander à Madeline en premier, parce que ça va être plus simple avec elle, de nous décrire le trouble de son enfant.
Alors, mon fils, il est ce qu'on appelle anciennement dysphasique.
Oui.
Donc, maintenant, on appelle ça le trouble du langage.
Oui.
Oral et écrit, parce qu'il y a l'un ou l'autre. Donc, ça va être des consignes qui sont trop longues. Et du coup, il va synthétiser la consigne, il va en oublier une partie. Donc, en fait, c'est tout ce qui va être mémoire courte.
D'accord.
À court terme, il a une très très bonne mémoire à long terme, mais il y a certaines choses, il oublie. Je peux pas lui donner trois missions d'un coup. Dire tu commences par ça, tu fais ci et tu fais ça. Il faut que tout décomposer. Il y a ça. Bon, il n'est pas diagnostiqué DDAH, mais il y a des suspicion sur certaines choses, sur certains comportements. Mais aujourd'hui, il n'a pas été diagnostiqué TDAH. Ça va être le langage écrit. Voilà, il va apprendre une liste de mots qu'on va lui demander à apprendre. Le mot, il le découvre tous les jours, en fait. C'est les sons complexes. Oui. Donc, il travaille avec l'orthophoniste qui est juste génial sur beaucoup de choses. Et ensuite, il arrive à compenser. Ils ont une forme d'intelligence, ces enfants-là, pour compenser sur autre chose.
Oui, oui.
Et c'est vrai que avant le CP, on s'en est pas rendu compte. Et parce que bon, déjà ils sont rentrés à l'école, nos deux garçons, en 2020, donc les maîtresses avaient encore le masque, donc tout ce qui était syllabes, etc., lire sur l'élève, c'est quelque chose qu'ils faisaient pas parce qu'il y avait les masques. Et donc c'est arrivé au CP où il y a eu la phase de lecture où on s'est rendu compte que effectivement il y a des certains sons, etc. Au-delà de ça, il a un trouble du neurovisuel. Donc on a travaillé avec une orthoptiste et il s'est avéré aussi qu'il avait un problème au niveau des oreilles. Donc le combo des trois ont que voilà, donc en un an,
La communication donc est
qui a été compliquée
parce que déjà, il faut décomposer
les
ensuite
les dreux,
si
même
les
dans le
yeux, il y a un problème et les oreilles aussi. À la fin de la communication, c'est ce qui pâtit le premier.
On pensait qu'il était même dyslexique puisque il lisait pas votre, il lisait vortre, et on s'est rendu compte qu'en fait c'est la superposition de deux images, nos yeux, et en fait, il y avait un œil qui bougeait tout le temps, et coup, le R, une fois, il le voyait devant, une fois, il le voyait derrière. Mais c'est pas de la dyslexie. Donc, voilà, le combo des trois professionnels ont fait que ben, ça a été très, très, assez rapide et assez fulgurant, mais voilà, il fallait poser un diagnostic, en fait.
Très bien, ben, merci. On va se tourner Ophélie, et donc
si
on peut parler rapidement avant la prochaine pause quand même, parce que des troubles qui concernent vos enfants.
Alors j'ai une fille qui est autiste sévère sans déficience intellectuelle, donc là je dis bien faites attention à vos filles parce qu'elles peuvent être autistes et que ça ne se voit pas.
Voilà.
Enfin ça ne se voit pas. Ça peut juste paraître pour des filles timides. Moi, j'ai attendu 7 ans avant que ma fille soit diagnostiquée et 5 ans avant qu'elle ait une amie. Donc, on parlait des anniversaires tout à l'heure. J'aurais rêvé qu'elle soit invitée à des anniversaires et elle ne l'a pas été pendant 5 ans. Donc, elle, c'est plus sensitif. Elle ne va pas savoir comprendre pourquoi elle se dispute avec certaines personnes. Ça a été le second degré. Alors, moi qui suis très sarcastique, ça a été très compliqué pour elle au début. Mais aujourd'hui, voilà, la prise en charge est incroyable et c'est voilà. J'ai un fils de 8 ans qui a un trouble de la coordination avec un trouble neurovisuel et il est en train de passer d'autres tests pour voir s'il y a autre chose ou pas. Donc lui, niveau comportement, il n'y a pas de problème en soi. Ça va être plus à l'école. Donc là, pareil, il faut se battre parce qu'il n'est pas en échec scolaire. Mais il souffre. Donc moi, je leur ai dit que fichais qu'il ne soit pas en échec scolaire. Que moi, ce que je voulais, c'était qu'il ne souffre pas. Donc voilà, parfois, il faut aussi se battre pour leur bien-être, en fait, simplement. J'ai un fils qui, de 3 ans qui est suivi au CAMS pour une suspicion de TDAH et ou TSA. Donc là aussi, hein, comme quoi c'est différent, parce qu'au début on me parlait d'autisme, je disais que pas du tout. Bon, bah aujourd'hui il m'aligne les objets tout le temps, enfin il parle pas. Et j'ai un petit garçon de 18 mois, donc là bon, il est de toute façon beaucoup trop jeune pour poser un diagnostic. Aujourd'hui, voilà, on parle d'une hyperkinésie invalidante. Donc,
d'accord. Bon, ben ça fait une liste impressionnante. Hein. Alors on a utilisé pas mal d'acronymes. On va un peu les débunker un petit peu. Après, on va détailler ce que c'est, puis expliquer un petit peu les troubles neuroatypiques, qu'est-ce que c'est, leurs origines, etc. Parce qu'on voit bien on voit bien que par exemple, vous avez 4 enfants. On voit bien que c'est pas un hasard.
C'est ça.
Voilà, vous avez peut-être la malchance, mais à ce point, voilà. Donc, on sent bien qu'il y a des origines, des fois génétiques, et environnementales, etc. On va en parler parce que, voilà, la science se pose aussi des questions. On dit pourquoi, d'où ça vient, voilà, avant d'essayer de pouvoir régler un problème, c'est bien d'en connaître son origine. Hein. Bon, bien sûr, c'est quelque chose de compliqué, mais les scientifiques travaillent dessus. On va faire une deuxième petite pause, donc, écouter un petit peu de musique et le flash info local, et on retrouve nos invités. Et on est de retour avec Aboum et Debout. Alors on va parler un petit peu des noms qu'on a donnés un petit peu, parce que c'est vrai que je me bats un petit peu contre les acronymes, même si je les utilise tout le temps, on le fait tous, hein. C'est le côté un peu jargon des fois, mais c'est vrai que c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas dans ce milieu-là. Par exemple, une chose qu'on prononce souvent, c'est MDPH, on sait pas forcément ce que ça veut dire exactement, la MDPH. On sait qu'il faut faire un dossier auprès de la MDPH, pour avoir une prise en charge de son enfant qui a un trouble.
Oui, en plus, pardon, mais c'est même pas la MDPH. Dans les Landes, c'est la MLPH.
La MLPH,
c'est parce qu'il y a la maison landaise. Voilà, c'est la maison landaise
des
personnes handicapées.
Voilà, parce que MDPH, c'est maison départementale.
Exactement.
Donc, il m'en serait dans le Jura, ce serait un J, peut-être.
Tout à fait.
MJPH, il faut regarder, oui. Et donc on parlait aussi de la prise en charge à l'école des enfants qui ont des troubles. On a besoin d'un AESH. C'est pareil, c'est un terme qu'on entend souvent parler, mais quand on n'est pas concerné, on ne sait pas forcément que ça veut dire accompagnant ou accompagnante des élèves en situation de handicap. Hein, donc ce sont des aidants qui sont payés pour aider les élèves pendant les cours ou même entre les cours. Hein. Voilà. Donc vous-même, vous avez dû faire ces fameuses demandes de dossier, petit parcours du combattant à l'administration en France, n'est-ce pas ?
Exactement.
Et ça consiste en quoi ?
Alors là, on envoie, pour vous donner une idée, celui de mon fils, pour avoir l'AESH, il y avait une centaine de pages.
Ah oui.
Il faut mettre tous les bilans. Mmh. Donc, il y a neuropsychologique, il y a psychomotricien, neurovisuel, enfin tout. Il faut vraiment tout mettre. Ensuite, il y a une partie qui est remplie par le médecin, qui a donc du coup validé le diagnostic des troubles. Donc, qui lui remplit à savoir qu'est-ce que ça touche, à quelle intensité c'est important, à quelle intensité ça handicape sa vie et la nôtre, du coup. Et ensuite, il y a toute une partie à nous pour savoir nos besoins à nous. Donc, par exemple, dire que j'ai arrêté de travailler, dire que mon enfant pleure en faisant ses devoirs. Et vraiment, là aussi, il faut le dire, il ne faut pas dire sous-estimer. Parce que du coup, ils vont dire ah bon, il n'y a pas forcément de besoin.
Oui, oui.
Il faut vraiment oser mettre ce que ça, ça nous coûte en fait, au quotidien et pas se dire oui, bon, c'est normal, c'est pas grave. Voilà, donc, et donc ensuite, parce que là aussi, il y a les délais d'attente, parce qu'il y a le temps de le faire, et ensuite, il y a les délais d'attente qui en moyenne sont de 8 mois.
8 à 10 mois. Alors, au-delà de... Là, c'est juste le dossier MDPH pour avoir une reconnaissance, une notification. Ensuite, pour tout ce qui est AESH, il y a aussi une partie remplie avec l'école, ce qu'on appelle un GEVASCO. C'est aussi un acronyme, mais on arrive à ce stade-là quand l'école a mis en place tous les moyens possibles, des PPE, PPRE, etc. Pareil, c'est que des acronymes. Mais... En gros, il faut que l'école ait mis en place des choses et que ces choses-là n'ont pas réussi. Et à ce moment-là, on monte un dossier avec l'école pour demander cette aide-là, qui vient s'ajouter à une nouvelle demande de MDPH. Donc, on repart pour 8 à 10 mois pour obtenir une AESH. Et une fois qu'on a cette notification d'AESH, donc la MLPH nous dit que soit cette aide est mutualisée, donc l'aide va prendre en compte plusieurs enfants, en fait, et il n'y a pas de temps. Soit cette aide est individualisée. Et là, dans ce cas-là, si elle est individualisée, l'aide est censée être toute seule avec l'enfant pendant un certain temps.
Bien sûr.
Donc, moi, mon fils, par exemple, il est en individualisé 15 heures par semaine. Son fils est en mutualisé. Par exemple.
Alors, c'est vrai que les AESH font partie des femmes. Parce que je crois que
la
grande majorité, c'est des femmes, bien évidemment. Elles font partie des emplois un peu précaires parce qu'elles ont énormément de mal à avoir un temps complet qui permet.
Ça n'existe pas.
Voilà, donc ça fait partie des emplois où c'est compliqué. Moi, j'en connais, j'ai déjà rencontré et tout. C'est vrai que ce statut est un peu particulier. Hein, si on mutualise ou pas, c'est pas évident. Parce que des fois, il y a les enfants, c'est vraiment très très lourd. Donc, c'est pas évident. Et en plus, le problème là, des troubles que vous avez décrits là de vos enfants, c'est que c'est des troubles qui vont les freiner, les rendre plus difficile la phase d'être à l'école, la phase que font tous les enfants d'apprentissage et de socialisation. Donc c'est hyper important de les prendre en charge le plus tôt possible en fait.
C'est ça. Et en plus, y a forcément dans les classes, elles tournent. Elles essayent au niveau organisationnel, les directrices essayent de les faire tourner, puisqu'effectivement, il n'y a pas assez d'AESH aujourd'hui. Il y a environ 55 000 enfants qui n'ont pas en France d'AESH pour eux. C'est très compliqué. Elles ont, comme vous disiez, des emplois assez précaires, malheureusement. Nous, on a la chance que sur l'école, elles restent sur l'école, mais elles peuvent très bien tourner d'école en école sur leur semaine. Donc, c'est très compliqué pour elles. Elles ont des enfants en charge. Elles ne sont pas forcément informées. Et puis, au-delà de l'apprentissage scolaire, il y a aussi l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont peut-être lui faire une crise en arrivant le matin parce qu'on lui a changé sa place,
Chez les autistes, le moins de changement de crayon, ça peut être une crise.
Exactement, c'est pas sa chaise, pas son bureau, c'est au-delà du temps scolaire, de l'apprentissage scolaire, c'est aussi gérer l'enfant dans son quotidien. C'est notre bras droit à l'école, en fait. C'est notre remplaçant à l'école. Et c'est pas forcément évident pour elle.
C'est intéressant. Comme ça, en vous faisant parler, je fais découvrir aux parents qui auraient besoin de se tourner vers vous, votre domaine de compétences, ils se disent ah ben oui, parce que voilà, c'est ça les associations, on va dire, vous pouvez devenir le nouvel interlocuteur, leur futur interlocuteur qui leur permettra ben, de, parce que vous allez mutualiser et rassembler tous les ben, ces connaissances là, ce parcours du combattant, hein, l'administration, faire les dossiers, etc. À quoi on a droit, les professionnels de santé ben, qui sont à recommander ou pas, et voilà. Donc ça, ça fait partie des actions de votre association.
C'est ça. Mais c'est vrai que c'est important, et puis on peut tous se donner des tips. Je vois par exemple, j'ai discuté avec une autre maman qui avait une fille autiste, et ma fille avait du mal à se laver le haut de la tête, par exemple, donc parce qu'ils ont un problème dans la gestion de leur corps. Oui. Et elle m'a dit, bah, moi, je lui ai mis un miroir dans la douche.
Ah oui.
Et bah, voilà, j'y aurais jamais pensé si j'avais pas discuté avec cette maman. Et c'était un peu le but, c'est-à-dire que même sans être professionnel, on peut, au quotidien, nous, avoir des petits tips qui ont marché ou pas. Ça, peu importe, ça dépendra effectivement de l'enfant. Mais voilà, c'est vraiment, on est beaucoup plus forts tous ensemble. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tous dans la honte et tous
dans la culpabilité.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Donc c'est vrai que ça, c'était aussi important pour moi de se dire, sans parler de professionnel, on peut aussi s'apporter tous ensemble beaucoup de choses.
Alors justement, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors quelles sont les choses que vous avez envie de mettre sur place ? On a parlé de groupe de parole, c'est quoi vos objectifs ou vos projets ?
Alors on va commencer parce qu'effectivement, l'association est toute récente. Donc, on va lancer ça en septembre. On aimerait commencer par des cafés, des cafés de parents, une fois par mois pour commencer, avec des petits groupes. Donc, on pourra... Alors, le premier jour, on acceptera tout le monde. Mais après, voilà, ça sera beaucoup plus simple de faire des groupes un peu plus restreints. Et on veut vraiment une association qui ressemble aux parents et qui réponde à des besoins. Alors, on ne pourra pas répondre aux besoins de tout le monde, évidemment. Mais on va essayer de faire ces cafés parents, de discuter. Il y aura des thèmes régulièrement. On aimerait faire intervenir aussi des professionnels sur certains thèmes. Donc, s'il y a des professionnels qui veulent nous contacter, ils sont bien les bienvenus aussi. Voilà, et on va essayer de faire intervenir des gens pour nous aider aussi, parce que nous, on n'est pas professionnels, on est aussi parents. Donc voilà, c'est vraiment une entraide et un collectif de parents. On a commencé à mener aussi une action pour les AESH de l'école de Metz. Donc on a écrit à la DAZEN, direction académique de l'éducation nationale, mais voilà, on veut vraiment, parce qu'ensemble on est plus fort, de pouvoir monter certaines actions pour que les enfants soient quand même plus à l'aise et plus sereins dans leur quotidien, et que les parents de leur côté puissent se décharger et puissent trouver refuge entre guillemets au sein de l'association et de pouvoir se décharger en fait, tout simplement.
Bien sûr, vous êtes en lien avec d'autres structures ? Vous avez des partenariats
Alors, bon, moi, je discute beaucoup avec Monsieur Ladois, du coup, d'Autisme Land, parce que c'est vrai que, par exemple, quand on a discuté, c'est vrai que lui, il fait des groupes de parole, par exemple, mais que pour les parents d'enfants autistes.
Oui, bien sûr.
Et moi, je voulais justement ouvrir à tous les troubles neurodéveloppementaux, quels qu'ils soient. Voilà, j'ai des liens avec eux. Il y a aussi, ils ont monté un relais d'Autisme Land, avec Jessica Gaillard. C'est que j'ai le bon nom. On est beaucoup en contact, on fait beaucoup de conférences. Voilà, là, j'ai trouvé aussi une association Évasion Équine, donc qui propose de l'équithérapie.
D'accord, oui.
D'ailleurs, mes enfants y sont pendant que je suis là, avec justement des balades possibles en don libre, parce que y a un coût financier quand on a des enfants avec des troubles neurodéveloppementaux et on peut pas forcément se permettre des à côté. Donc, c'est vrai que cette association permet aussi d'avoir des à côté. Donc voilà, on essaye de réunir plusieurs associations pour qu'on puisse atteindre le maximum de personnes possibles.
Bien sûr. Et là, alors vous cherchez quoi pour l'instant, là, à l'instant T, des adhérents déjà,
tout à fait.
Des parents essentiellement,
des adhérents,
des bénévoles au sens large aussi.
Oui, bien sûr, des adhérents, des bénévoles, des professionnels qui veulent aussi nous aider. Voilà, alors ça sera pas tout une fois par mois, etc. Mais voilà, on aimerait aussi avoir un peu de retour des professionnels si à un moment donné on est dans l'erreur parce que on n'est pas professionnel.
Oui, bien sûr.
Donc toute aide externe et et apprendre. Et nous, on veut aider les parents qui sont concernés sur la neuroatypie, le trouble du neurodéveloppement.
Même si y a des... Par exemple, des coiffeurs ou des choses comme ça qui voudraient aussi, parce que bah effectivement on s'oublie hein, dans tout ça. Donc pouvoir proposer. Bah, j'ai discuté avec une maman qui a deux enfants en situation de handicap. Elle a pas été chez le coiffeur depuis 5 ans.
Oui, ça je partage tout à fait ça, la situation moi-même.
On imagine.
Mais donc du coup voilà peut-être même des entreprises qui seraient touchées par
même
par
du massage,
du massage, de l'hypnose, des choses comme ça, mais
choses pour le bien-être
avec des dons libres. Libres éventuellement,
ou
voilà, qu'on ait des partenariats avec ce genre de professionnels. On n'est pas que sur des professionnels d'orthophonistes ou des choses comme ça, mais voilà, s'il y en a qui sont sensibles à l'association, sûr que...
Ça peut être de simples bénévoles, par exemple, c'est un sujet dont on parle souvent, une asso, ben, rien que la com, c'est du boulot. Quelqu'un qui soit sur les réseaux sociaux, qui fasse des visuels, etc. Enfin, ouais, voilà. Donc, des fois, rien que d'avoir un bénévole qui prend en charge ça ou une partie de ça, c'est super important dans une association.
L'IA, elle fait beaucoup de choses, mais elle ne fait pas tout.
Et même l'IA, il y en a beaucoup qui ne savent même pas s'en servir. Hein, c'est un peu,
Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'outils aujourd'hui. Mais c'est vrai que la com, c'est un gros boulot. Surtout que, bon, Ophélie a beaucoup de rendez-vous. Moi, je travaille quand même à côté. Voilà, je travaille en 39 heures. Je suis manager service client, parce que tout à l'heure, vous étiez secrétaire. Ce n'est pas totalement secrétaire, mais c'est vraiment manager service client.
Oui.
Donc, voilà, c'est des responsabilités aussi. Donc, voilà, on n'a pas forcément le temps, plus les rendez-vous, plus le quotidien. Hein, donc,
Plus on est, mieux c'est. Hein,
exactement, l'union fait la force, comme on disait.
C'est ça. Eh bien, sur ça, on va attaquer la dernière pause, la dernière partie de cette émission. On se retrouve tout de suite après ça. Et nous voilà la dernière partie de cette émission. Donc, bien sûr, on va rappeler tout ce qui est date et actualité. Donc, c'est important. Les gens qui vont envie de vous rencontrer, vraiment, donc ils pourront vous voir au Forum des associations de Metz. Alors, c'est quoi la date déjà ?
Le 29 août de 9h à midi.
Voilà. Donc là, ça sera le moment de vraiment vous rencontrer en direct.
Tout à fait.
Voilà. Et là vous aurez la possibilité aussi de voir ce qui se passe, les gens qui ont écouté l'émission et les gens qui sont intéressés, voilà, vous nous ferez des retours, hein, si vous en avez
besoin,
vous nous le dites, hein, parce que nous, on est contents de savoir qu'on est utile aussi
dans
l'intérêt général, c'est notre job. Hein. Et alors, moi, je voulais parler aussi un petit peu on n'a pas parlé d'un trouble dont on commence à parler, qui n'est pas très connu, c'est le TOP. Alors, le trouble du développement intellectuel, c'est le trouble du développement de la coordination, il y en a plein, et le trouble oppositionnel avec provocation.
Ouais.
Voilà, alors c'est parce qu'on n'en a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai que c'est difficile vu de l'extérieur. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais bon, en fait, votre gosse, il est juste casse-pied, quoi. »
Voilà, hein, c'est ça, on ne sait pas.
Vous avez dû l'entendre d'une manière directe.
Vous
ne
savez pas le tenir, il est mal élevé. Moi, je lui mettrais une fessée.
Ah ouais, alors ça, je crois que c'est la phrase qu'on entend le plus. Une bonne fessée ou deux montants, ça, ce serait pas passé comme ça.
C'est pas facile de faire. C'est vrai que c'est pas facile de faire reconnaître ce trouble qui peut être invisible. Vous parliez de l'autisme chez les filles, c'est toujours la double peine, sont chez les filles. Il est pas forcément moins présent que chez les garçons, mais il est moins visible.
Il est plus dissimulable.
Et oui, elles sont plus souples. Elles sont plus souples les filles que les garçons. Bien c'est sûr. Bien connu.
C'est ça.
On passe beaucoup plus facilement sous les radars parce qu'on s'adapte en fait.
Mais voilà, ça c'est une double injustice de la nature, ça encore. Hein.
Oui, ça après, malheureusement, maintenant ça commence à se généraliser, donc on y prête quand même beaucoup plus attention.
Ouais, c'est pour ça que c'est important d'en parler, hein, parce que voilà, faut être conscient du fait que certains troubles, c'est pas marqué sur le front, c'est pas marqué, on le voit pas forcément, et c'est qu'à l'usage qu'on s'en rend compte. Et vous-même, vous avez dû en pâtir et en souffrir encore régulièrement en chemin avec cette histoire de « ouais, bon, c'est juste un gosse casse-pied, quoi ».
Oui, c'est sûr. Et puis, même des fois dans notre propre famille, hein, où il y a les gens qui ne vont pas comprendre, qui vont dire que c'est une mode, qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. Alors, moi, je peux vous le dire que c'est faux, puisque mon père en avait un.
Oui.
Donc, voilà, c'est juste qu'effectivement, à l'époque, on allait les ranger dans une catégorie d'imbéciles ou de fauteurs de troubles, ou voilà, peu importe, et qu'on n'allait pas mettre de mots là-dessus. Il faut savoir que jusqu'en 2010, on pensait que les filles n'avaient pas d'autisme.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est poser des choses, effectivement. Alors peut-être, ça reste de la psychologie, peut-être que sur 10 enfants, 2 ont un faux diagnostic, mais ça en sauve 8, mmh. et c'est ça qu'il faut voir,
oui,
en
oui,
fait.
C'est, vrai.
C'est que peu importe, à la rigueur, si c'est un faux diagnostic, alors en attendant, on sait que la majorité, ça va les sauver dans le temps, ça va leur permettre de se connaître, mmh. ça va leur permettre d'apprendre comment ils fonctionnent,
de
parce qu'on parle
ouais.
de l'inclusion, et c'est génial. Mmh. Malheureusement, les moyens n'y sont pas forcément mis, mmh. et puis dans tous les cas, ils vont devoir se conformer à la société, quoi qu'il leur en coûte.
Oui,
donc
oui.
le tout, c'est qu'ils en souffrent le moins possible et qu'on puisse les accompagner.
Mmh.
Donc leur mettre des fessées, ça n'aurait aucun sens, en fait, puisque
sûr,
de toute façon, ils ne le font pas exprès et ils ne font pas semblant. Et donc, c'est vrai que c'est très important aussi de le dire, quoi. Mmh. Au bout d'un moment, on les aide juste à s'épanouir, en fait,
et
principalement.
Et même nous, dans notre quotidien, il y a des jours où... Pff,
ouais.
C'est compliqué, on est fatigué, il
forcément.
Tient pas en place. Bon,
le nombre
oui,
de fois
compliqué.
Où j'ai pleuré dans ma voiture aussi,
oui.
parce qu'il t'a fait une crise et que tout le monde te regarde et que toi t'es juste fatigué et que les gens ils te disaient ben dis donc. Alors il y en a, ils sont bienveillants, ils vont vouloir aider, ça va empirer la crise parce que ton enfant il a pas envie d'être touché ou
oui,
pas.
Oui, c'est ça.
Donc il y a quand même des gens bienveillants, mais c'est vrai que c'est lourd au quotidien, c'est voilà, se battre tout le temps avec eux. Enfin, c'est,
pour
c'est...
eux, ouais. contre eux, des fois,
ben
malheureusement.
Oui.
Mais
oui, mais
voilà,
c'est ça l'amour aussi. Hein.
Exactement.
C'est ça l'amour tout court. Alors moi, pour les crises de larmes dans la voiture, j'ai un remède. Vous mettez 88.6.
Sous RFM.
Paf, je l'ai casé.
Ça passe.
C'est
ça.
Vous allez entendre David qui va vous... voilà. Et moi, ça va vous remonter le moral.
C'est ça.
On prend.
Voilà.
On prend.
Puis même,
on prend tous les tips.
Maintenant, vous saurez qu'on vous connaît. Et en écoutant, vous dites, tiens, ils sont sympas.
Ouais,
voilà.
C'est vrai.
On n'en doutait pas.
Voilà, non, mais c'est... Oui, alors je parlais de ce fameux top. C'est vrai que c'est un trouble d'opposition. Donc, on pense, ouais, voilà, pareil, c'est juste un ado casse-pied. Mais il y a vraiment une description scientifique, hein, si vous
oui.
allez sur Internet. Parce que, justement, tous ces troubles-là dont on parle, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas juste, on se dit, tiens, on va appeler ça comme ça. Il y a quand même des travaux scientifiques reconnus. Hein, c'est pas du complotisme. C'est quelque chose d'avéré et de reconnu. Il faut dire aux gens, voilà, que s'ils ne croient pas, qu'ils aillent regarder sur Internet, ils vont trouver des études de plein de scientifiques. C'est vraiment des troubles.
Ah,
c'est quelque chose qui sort de la norme. Voilà.
J'ai eu l'occasion de participer à une conférence scientifique sur les troubles du neurodéveloppement à Paris, où on peut vous dire que le TDAH est héréditaire à 74%,
ah oui,
l'autisme
c'est
entre 60 et 90%.
Voilà, oui.
Pareil, quand on va nous dire que c'est parce qu'on ne sait pas leur mettre des limites, il faut savoir qu'un trouble du neurodéveloppement, ça se fait à la 28e semaine de grossesse. Ils ont réussi à déterminer que c'était au moment de la formation du cervelet à la 28e semaine de grossesse qu'il y avait un problème. Donc non, ça ne vient pas de... Alors effectivement, on va nous parler de la télé, Alors ça peut donner des signes similaires, mais un vrai trouble du neurodéveloppement, ça se fait à la 28e semaine, ils sont nés avec, ils mourront avec.
C'est ça,
il n'y a pas
fait,
de...
Oui.
Voilà, donc on sait que c'est génétique, que les parents luttent même avec un trouble du neurodéveloppement pour la plupart.
Ben oui,
on sait qu'il y a un parent sur deux qui... entre à peu près 50% des parents qui ont eux également un trouble du neurodéveloppement.
Et oui. Alors, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à l'APESAC, hein, c'est une association qu'on a reçue plusieurs fois ici. Et parce que, voilà, on parlait de l'aspect génétique, on voit bien que vous avez 4 enfants, donc on voit bien que ce n'est pas un hasard, qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
Sinon,
hein,
j'ai vraiment pas de chance.
Ouais, voilà,
bien la culpabiliser.
Ouais. Non mais c'est vrai qu'il y a aussi des fois des facteurs environnementaux dont parfois des produits chimiques. Hein.
Exactement.
Donc l'APESAC, c'est une association qui se bat contre Sanofi depuis très longtemps, puisque voilà, il faut savoir que la dépakine et tous les médicaments qui traitent l'épilepsie donnent plus d'une chance sur deux à chaque mère qui est traitée d'avoir un enfant qui a des troubles en physique, par exemple un membre mal formé, etc. Et aussi des troubles de la sphère autistique, etc. Voilà. Donc il faut savoir aussi que l'environnement peut aussi causer des... on a reçu France Parkinson. Eh bien, on sait, alors on a parlé des agriculteurs, on sait que plein de pesticides provoquent à la longue des troubles de la maladie de Parkinson. Voilà. Donc il y a aussi ce facteur génétique, ce pas de chance dans la loterie génétique laquelle on est.
C'est très compliqué d'ailleurs pour eux de le faire reconnaître en maladie professionnelle. Hein.
Ben oui, je sais, oui, c'est ça. Mais voilà, il faut dire aussi que c'est possible que ça vienne aussi d'un facteur extérieur, comme les cancers.
Les scientifiques le disent également, que par exemple, moi j'ai le gène, mais je n'ai pas de troubles. Malgré tout, on sait que les perturbateurs endocriniens jouent un rôle également dans si ça ça se déclenche ou non, parce qu'ils n'arrivent pas à savoir pourquoi il y en a qui ont le gène mais qui ne le déclenchent pas. Mmh. Donc effectivement, les perturbateurs endocriniens sont mis en cause, même par les scientifiques aujourd'hui.
Oui, on en parle beaucoup, les PFAS, etc., les polluants internels, mais bon, pour l'instant, ça a l'air un peu compliqué de s'en passer. Voilà. Mmh. Alors c'est paradoxal pour les agriculteurs, dans le sens où ça les esquinte énormément. Et en même temps, ils l'utilisent pour travailler, pour avoir des meilleurs rendements.
C'est ça.
C'est compliqué quand même. Hein.
Mais c'est de partout. Hein. De toute façon, il n'y a pas que les agriculteurs, mais malheureusement...
Il y a du bon et du mauvais dans tout, donc c'est vrai que c'est compliqué.
Exactement.
Ben, très bien, je crois qu'on va en rester là, mesdames. Et ben, c'était très sympa de vous avoir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis moi, je vous admire, parce que vous êtes comme des tas de gens et des tas de femmes, des héros du quotidien, qu'ils le veuillent ou non, c'est comme ça. Et voilà, il faut trouver la ressource, la force de faire face. Et vous allez, j'en suis sûr, transmettre votre force et vos connaissances à d'autres parents qui sont dans les mêmes galères, les mêmes interrogations. Et comme on a dit, l'union fait la force. Ce sera, je crois, le slogan de l'émission d'aujourd'hui, mesdames.
Et si je peux juste rajouter quelque chose, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, À Boum et Debout. Directement, où vous aurez toutes les actualités, tout ce qu'on a sur les réseaux, sur la page Facebook, À Boum et Debout.
Et il y aura le lien dans le podcast, évidemment, pour que les gens puissent vous contacter. Voilà. Chers auditeurs, auditrices, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous vous dites, tiens, je me reconnais dans tout ça,
j'ai envie de les aider.
Voilà, soutenez-les dans leur combat et elles vous soutiendront en échange.
Exactement.
En retour. Voilà. Merci beaucoup et bon retour en Metz.
Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.
Au revoir.